frères et sœurs, comme vous le savez, la parole de Dieu que nous avons entendue s'adresse à la fois à l'Assemblée dans son ensemble et à chacun de nous qui composons l'Assemblée. Le Seigneur, en effet, s'exprime en même temps au pluriel et au singulier. Il s'adresse à tout le monde et il fixe aussi son regard sur chacun de nous. Nous devons, par conséquent, faire en sorte que le message de salut éclaire notre aujourd'hui communautaire et individuel dans les situations concrètes que nous vivons. Nous nous confions à l'action de l'Esprit Saint qui meut en permanence nos esprits vers une compréhension toujours plus profonde de l'Évangile et allume à nos cœurs un oui grandissant et généreux à l'amour de Dieu. Et nous demandons en particulier que ce discernement est collectif et personnel à la lumière de la parole de Dieu accompagne surtout nos sœurs et nos frères dans la continuation de la mission d'être témoins de Jésus, de l'Évangile que l'Église leur a confié ici à Montréal et dans l'Église, dans le monde entier. Que nous dit comme communauté, comme personne, la parole de Dieu que nous avons écoutée? Dans la première lecture du prophète Ézéchiel et après dans l'Évangile avec la parabole des deux fils envoyés à travailler dans la vigne, nous trouvons un enseignement qui appartient à l'expérience que nous avons tous, mais dont souvent nous ne rappelons pas. Nous l'oublions ou nous pensons que cette expérience s'applique aux autres et pas à nous. Les défauts, les erreurs, les péchés sont toujours chez les autres. Comme il est difficile de les reconnaître à nous, à moi, dans chacun de nous. Le prophète Ézéchiel, au contraire, nous rappelle que le juste, s'il n'est pas vigilant, peut devenir injuste, méchant. Et celui qui a été considéré et jugé pécheur peut changer, peut devenir un saint. L'Évangile lui-même nous rappelle que les apparences extérieures sont trompeuses, que les bonnes paroles ne suffisent pas, que les bonnes paroles ne sont pas toujours accompagnées par des bons faits. Et ce sont les faits, les bons faits qui comptent. Dans la ville, dans cette grande ville de Montréal, sur les places, au bureau, dans les lieux de travail, les lieux de l'économie, de la politique, même dans l'Église, dans notre Église, à nous, il y a le blé et l'ivraie. Il y a le bien et le mal. Il y a le fils qui est invité à travailler à la vigne, dit oui tout de suite, mais n'y va pas. D'autre part, il y a celui qui refuse sur le coup, mais qui se repente et accueille le projet de son père. Et dans ce contexte, je me souviens des cinq vertus qu'un évêque sage et avec beaucoup d'expérience de vie et conseillait à un jeune évêque. Cinq vertus. La première vertu, celle de la patience. La patience, nous savons, c'est l'amour qui ne se fatigue jamais. Non, c'est l'amour qui espère toujours. C'est l'amour qui recommence chaque jour. Non. La première vertu, la patience. La deuxième vertu, la patience. La troisième vertu, la patience. La quatrième vertu, la patience. Et la cinquième vertu, encore, la patience avec les personnes qui nous demandent d'avoir patience. C'est cet amour qui ne se fatigue jamais, dont nous avons besoin pour rencontrer chaque jour avec confiance, avec estime, sans limite, tout le monde, et qui sont les hommes et les femmes qui constituent cette belle ville qui est Montréal. Naturellement, cette vertu de la patience, de l'amour qui endure toujours, c'est impossible avec nos forces humaines seulement. Mais on peut la demander, cet amour patient, et Jésus, il est bien content de nous le donner. Cependant, la parole de Dieu que nous avons entendue ne nous rappelle pas seulement le mélange douloureux du bien et du mal dans lequel nous vivons et dont nous souffrons. Mais la parole de Dieu nous ouvre aussi un chemin lumineux qui rend possible à nous la victoire du bien, la victoire de la lumière. Et ce chemin nous est ouvert par le troisième fils qui se trouve derrière les deux fils dont nous parle l'Évangile. Le premier fils dit non, mais réalise ensuite la volonté de son père. Le deuxième fils dit oui, mais ne fait pas ce qui lui a été ordonné. Le troisième fils dit oui et fait aussi ce que lui a été ordonné. Ce troisième fils, il est, nous le comprenons bien, il est le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui nous a tous réunis ici. Nous sommes ici parce que lui, il nous a réunis, Jésus. Entrant dans le monde, Jésus a dit, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Ce « oui », Jésus, il ne l'a pas seulement prononcé, mais il l'a accompli et il l'a souffert jusqu'à la mort. En humilité et obéissance, Jésus a accompli la volonté du Père. Il est mort sur la croix pour ses frères et pour ses sœurs, pour nous, et il nous a rachetés de notre orgueil et de notre obstination. Remercions-le, Jésus, pour son sacrifice. Fléchissons les genoux devant son nom et proclamons nous aussi ensemble avec les disciples de la première génération, comme dans l'hymne que nous avons écouté, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Chacun de nous peut être ce troisième fils en effet, non? Et nous le sommes déjà, parce que j'imagine que la plupart de nous a reçu le baptême. Et le baptême, c'est être baptisé en Jésus, c'est être immergé dans sa dignité de fils de Dieu, c'est recevoir son amour. L'héritage qu'il nous donne, c'est son amour, il la met en nous. Donc, même si nous l'oublions souvent, l'amour qui est en nous et que nous essayons de faire sortir de nous n'est pas d'origine humaine, c'est un don de Dieu. Nous aimons avec l'amour de Dieu qui a été mis dans nos cœurs. Ce troisième fils, nous le vivons en essayant de laisser et grandir à nous, qu'on nous invite à faire l'apôtre Saint Paul, les sentiments de Jésus. Aujourd'hui aussi, comme hier, nous dit le pape François, la force de l'Église n'est pas tant donnée par les capacités d'organisation et par les structures qui pourtant sont nécessaires. Ce n'est pas là que l'Église trouve sa force. Notre force est l'amour du Christ. Quand je dis l'amour du Christ, ça signifie l'amour du Christ, pas mon amour, l'amour du Christ, l'amour que Christ a pour moi et, parce qu'il me le donne, l'amour de moi envers lui envers nos frères et sœurs, l'amour du Christ. Notre force est l'amour du Christ, une force qui nous soutient dans les moments de difficulté et qui inspire l'action apostolique aujourd'hui encore pour offrir à tous bonté et pardon, en témoignant ainsi la miséricorde de Dieu. Le pape François nous envoie, vous envoie, et l'action apostolique de Dieu pour offrir à tous bonté et pardon, en témoignant ainsi de la miséricorde de Dieu. Alors, je voudrais comme souligner et terminer et en comme mettant à nos cœurs deux des sentiments de Jésus, non, qui vient d'être nommé par le Saint-Père. Premier, le pardon. Souvent, quand je me suis retrouvé à parler de pardon avec ceux qui étaient convaincus d'être du bon côté, je me suis fait dire, pardonner, pourquoi? Je sais que c'est l'autre qui a tort. Et après ces paroles sèches, suivait presque toujours la liste des méchancetés souffertes par la faute de celui qui s'était mal comporté. Alors, je lui répondais, précisément parce que tu as raison, tu peux donner le pardon. Autrement, tu devrais demander le pardon. Et j'ajoutais, si tu me demandes la raison pour laquelle, selon l'Évangile, tu dois pardonner, la réponse est immédiate. C'est parce que tu as été pardonné. Notre vie de chrétien commence vraiment là quand nous découvrons l'amour plein de miséricorde et de pardon qui remplit notre vie. La première chose dans la vie chrétienne, ce n'est pas d'aimer Dieu, mais c'est de nous ouvrir à son pardon, recevoir son pardon, son amour. Et alors, notre amour, c'est comme une réponse. Non, c'est la gratitude à son amour. Bien sûr, pardonner n'est pas oublier. Mais pardonner signifie purifier la mémoire pour éviter que le ressentiment nous empêche de recevoir et de donner l'amour. Pardonner, c'est constamment comme mettre de la paix à nous, écarter le jugement et écarter et un peu la violence qui se dégage à nous, et constamment comme se souvenir des choses belles que tout le monde a. Non. Et donc, pour de ça, je dis purifier la mémoire, faire de façon que notre mémoire profonde, nos sentiments profonds soient inspirés pour la gratitude, par la gratitude, par la reconnaissance. On a toujours des raisons dans la vie pour être reconnaissant. Ceux qui pratiquent le pardon sont appelés à s'engager à changer les situations négatives rencontrées en soi et en dehors de soi. Non. Donc, pardonner, ça signifie mettre de la paix à moi-même et être artisan de paix en dehors de moi-même. Être dispensateur de joie et artisan de paix. Dispenser la joie et la paix et la miséricorde de Dieu. Le pardon et l'humilité. L'humilité. Saint Paul nous offre une définition bien précise et concrète de ce que c'est l'humilité. L'humilité consiste à considérer les autres supérieurs à soi. Ça, c'est l'humilité. Considérer les autres. Quels autres? Tous les autres. Tous les autres. supérieur à soi. Il continue en disant que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Et l'humilité vient du mot latin humilitas, humus, et humus en latin signifie terre. Qui est la personne humble? C'est la personne qui a les pieds bien mis sur la terre. C'est la personne concrète, la personne réaliste, qu'elle connaît, que nous ne sommes rien de nous-mêmes et tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. Et la personne humble, c'est la personne qui est capable de faire de grandes choses. Pour faire de grandes choses, il faut être humble, comme la Vierge Marie, qui fait la chose plus grande, qui est devenir mère de Dieu, parce qu'elle est humble, n'est-ce pas? Et donc, si nous voulons être des personnes grandes, si nous voulons faire de grandes choses, le secret et la condition, c'est l'humilité. Les personnes humbles ont les pieds sur la terre, mais surtout, elles écoutent le Christ, la parole de Dieu. Comme dit, la personne humble laisse place à Dieu dans sa vie, qui fait de grandes choses après. Alors, je termine, demandons à Dieu le courage et l'humilité de cheminer sur la route de la foi, de puiser à la richesse du pardon et de la miséricorde reçue et donnée, et de fixer notre regard sur le Christ, la parole qui fait toutes choses nouvelles, qui pour nous est le chemin, la vérité et la vie, et qui est notre radieuse avenir. Bonne chose, bon travail. Amen.